naturellement, comme tous les jeunes, j'étais prédisposé à aimer ça, puisque dès que j'ai eu 14 ou 15 ans, je ne rêvais plus que ça, n'est-ce pas? Alors, autour de ma 16e année, au restaurant, parce que j'avais perdu mes parents, j'étais orphelin, je déjeunais dans un restaurant, et il y avait un type qui avait une, qui me parlait moto tout le temps, un type beaucoup plus âgé que moi. Et alors, il a réussi à me vendre sa machine, c'était une 2 cylindres Enestu. Une machine qui avait dû faire des grands prix autrefois, elle était anciennement à Courroie, enfin bref, il l'avait bricolée avec une boîte des SA 3 vitesses, c'était un truc, puis c'était une véritable batteuse. Mm-hmm. J'ai eu les pires ennuis avec, et là j'ai commencé à apprendre la mécanique. Croyez-moi, j'ai appris la mécanique. Parce que, enfin je m'en fous bien. Alors après ça, je suis arrivé à m'en débarrasser, et j'ai acheté une machine qui était sensationnelle pour l'époque. C'était une Monégoyon 500 qui sortait avec le nouveau moteur MAG double échappement.
Mmh. Ça, c'était en quelle année?
C'était en 28, début 28, mmh. ou fin 27. Enfin, non, c'était en 27, oui, parce que je l'ai gardé. Enfin, 26-27. Oui. Et alors, c'était la première machine qui sortait avec des culbuteurs enfermés. Autrefois, toutes les machines, les tiges de culbuteurs étaient à l'air libre, et les culbuteurs, on voyait tout ça qui bougeait, n'est-ce pas? Alors, cette machine, ma foi, je m'en suis servi largement, c'est-à-dire que je l'ai un peu gonflé déjà à l'époque avec des copains, et c'est là que j'ai fait la connaissance d'un certain nombre de garçons qui avaient des machines, des gens plus âgés que moi, naturellement, ouais. qui m'ont introduit à Saint-Denis. Il y avait un motoclub qui réunissait pas mal de mécaniciens, de gens comme ça. Alors, quand je suis revenu du service militaire, oui, pendant mon service militaire, j'avais trouvé l'occasion, j'étais enfin en relation avec un groupe dans lequel il y avait Fred Lippmann. Je sais pas si c'était Fred ou si c'est...
Fred.
Oui, c'était Fred S. Lippmann, c'est ça. Et alors, à cette époque, Fred S. Lippmann faisait, pour Motorvue, des essais de machines. Alors, il avait, entre autres, essayé une brosse supérieure, une 750 brosse supérieure de cylindre, dont j'avais lu les comptes rendus dans Motorvue, parce qu'à cette époque-là, je l'achetais tout le temps, naturellement. Il avait essayé une Gilles Verstal 500 qui marchait à l'alcool.
Oui.
Et un jour, il avait essayé une 350 AJS compétition. Alors, j'avais vu toutes ces machines-là chez le cantinière du coin. Enfin bref, j'étais fourré tous les soirs. Dès que la soupe était finie, je fonçais chez le gars pour voir les machines et pas où c'est, ce que c'est. Alors, j'ai eu l'occasion brusquement d'acheter cette machine qui était neuve, elle était pratiquement neuve, le concessionnaire avait des histoires, enfin bref, il a trouvé le besoin de vendre les machines tout de suite. Alors j'ai donc acheté cette 350 AJS, et j'ai fait de très bons souvenirs, j'ai donc terminé mon service militaire, je suis revenu avec, et puis j'ai roulé un bon moment, et en 30, j'ai acheté, oui alors je suis revenu en relation avec les gens
comme Lippmann
de Saint-Denis. Ah non, Lippmann,
ouais.
C'était fini.
Ouais,
j'étais à Besançon, j'ai fait mon service à Besançon, c'était fini, c'était une page tournée, vous comprenez,
vous
jamais plus.
Vous dire quelques mots de Lippmann?
Ah oui, d'ailleurs, je l'ai noté sur la petite, le petit tête mémoire que j'ai là. Lippmann, il était petit, naturellement, vous saviez, ça, c'était un homme qui devait faire 1m62, 1m63, oui, il était tout petit, et léger. Et il avait donc fait un jour un essai dans Motorvue, enfin, un jour dans Motorvue, je lis que Lippmann venait d'établir à Montlhéry le record du monde des 100 cm cubes. Alors je me souviens très bien, la photo représentait Lippmann avec sa machine, portée en triomphe par les mécaniciens et les gens qui étaient là. Et alors dessous, sous la photo, il y avait en sang, on n'est pas lourd sinon de gloire. Je me souviens de cette phrase. Je l'ai notée là sur le.
RTL.
Oui. Ouais, alors donc.
Enfin, Lippmann, c'est bien Monsieur Lipp.
Ah, bah oui.
Qui était à.
Bah, je pense. Oui, je pense que ça peut pas être quelqu'un d'autre que lui, je pense. Je pense. Enfin, moi, j'ai toujours compris comme ça. Alors, là-dessus, je reviens à Paris, je retrouve le groupe des gens que je connaissais. Ils étaient férus de moto de sacoche, parce que. Ils étaient férus de moto de sacoche. À cette époque-là, il y avait encore des motos de sacoche deux cylindres. Et il est dans. Alors, il y en avait, oui, la deux cylindres. Il y avait les 250 qui étaient semi-culbutées, et il y avait une 500, deux cylindres qui étaient semi-culbutées, et. Enfin, échappement en. Je ne sais plus si l'admission qui était. En culbuteur et l'échappement latéral, enfin bref. Et le garçon qui était au garage avec moi, s'appelait Burgos Labalme, il travaillait, il était électricien à Nord-Lumière, là, à Saint-Denis. Enfin, c'était un garçon très très sympathique, beaucoup plus âgé que moi. Et il avait une machine, une 500 ou une 600, je ne sais plus, comme ça, semi-culbutée, et il avait encore le changement de vitesse à manivelle, vous savez, il y avait un déplacement de courroie, je ne sais pas très bien comment ça fonctionnait, enfin il y avait un changement de vitesse à manivelle, on tournait une manivelle et les vitesses passaient. Enfin bref, un jour, j'achète la fameuse Monet Goyon double échappement avec le moteur mag. Et alors, j'entre dans le groupe des amis de Saint-Denis, alors, ce garçon-là qui s'occupait de ma mécanique. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait à cette époque, je ne sais plus ce qu'il a comme machine, il s'est procuré tout de suite une motosacoche avec le même moteur, puisque MAG, c'est motosacoche qui produisait les MAG. Motosacoche, ça veut dire... Non, MAG, ça veut dire motosacoche Acacia Genève. Enfin bref, il se procure une 500, motosacoche, et il faisait des courses déjà. Je mélange peut-être un peu les dates, mais enfin, ça fait rien. Il faisait des courses, et j'ai donc été embringué là-dedans. Avec la motosacoche, on a commencé à la gonfler, à la dépouiller. On a commencé à la gonfler à l'essence et son sol, et puis après on l'a gonflé pour faire des courses de côte, et on marchait à cette époque-là, c'était lui qui avait trouvé ça, au carburant national. C'est l'époque du carburant national. 50% d'essence, je ne sais plus combien, 40% d'alcool, et puis 10 ou 15% de benzole, enfin bref. Il se trouvait que avec ce moteur MAG, avec ses ouvertures de cam, enfin les ouvertures de soupape, enfin ce réglage de cam, l'entrée, le carburateur de série, il suffisait de mettre un gros gigleur, et on enlevait pratiquement une ailette au cylindre, on mettait le cylindre sur le tour, on lui enlevait une ailette, et on obtenait une compression, je ne sais plus, mais ça devait faire au moins 8 ou 9, pour l'époque c'était... C'est formidable. Les machines sport comprimaient à 5,5 à l'époque, parce que les culasses étaient en fonte. On avait un couple au démarrage extraordinaire. Dès qu'on mettait la gomme, la roue s'irait sur 10 mètres. Alors, on a faisait les courses de côte, et puis on a, comme amateur, on se classait bien. Lui en sidecar, il enlevait toutes les premières places en courses de côte. Alors moi j'ai fait quelques courses de côte, je voulais marquer là, avec ces machines-là, j'ai d'abord fait, avant tout, la première que j'ai faite, c'était une course organisée par le motocyclo-club de Saint-Denis, qui était un club qui n'était pas affilié à la fédération. Un club, on appelait ça les sauvages. Alors je gagne en 500, je fais le meilleur temps de la journée, avec ma 500 gonflée au carburant national. Et ensuite, j'ai donc été remarqué tout de suite par les gens du motocyclisme de France. Il y avait le secrétaire qui s'appelait Printemps. Il y avait un gars qui avait une jambe de bois qui s'appelait Basset, je crois. Basset, c'était son aide, enfin je sais pas. Et puis alors, il y avait l'équipe du motocyclisme de France. Il y avait les frères Krebs, qui était un peu journaliste. Il y avait un Crête qui était le plus grand, il était instituteur, je crois, et puis journaliste en même temps, enfin, bref. Et puis, enfin, il y avait un certain nombre de gens dont je vous ai marqué les noms, dont je me suis souvenu, là. Il y avait Andréno, qui était un coureur. J'ai des photos, là, je vous les ferai voir.
Oui, d'accord.
Il y avait Andréno, qui, lui, alors, était un professionnel. Enfin, il n'était pas appointé, je crois pas qu'il soit appointé par une marque. C'était des semi-professionnels, je crois. Enfin, il était ingénieur chez Soubitez, vous savez, les éclairages électriques. Alors, à cette époque-là, il courait sur berceuse Clément Gladiator. Vous savez, la longue machine, là. Mmh. Alors, il montait là-dedans un 250 Japs. Je me souviens qu'il tournait à Montlhéry à 144 à l'essence, avec un 250 Japs. C'était pas mal, hein. Oui, alors je suis donc contacté par le Motocyclette de France, qui me demande de faire partie de son équipe. Alors j'ai fait quelques compétitions pour le Motocyclette de France, mais je n'ai pas fait grand-chose. Je me souviens plus, c'est pas pour le MCF que j'ai fait ça, mais enfin, après j'ai fait des courses de côte. J'aimais pas les circuits parce que c'était trop long.
Ouais.
Moi, il fallait que ce soit fini tout de suite. Oui. Puis enfin, c'était quand même un pur amateur. Hein. Faut pas que je laisse croire que j'étais un grand nom. Hein. Il y a des choses, des gars comme moi, il y en avait des douzaines qui ont fait mieux, beaucoup mieux. Hein.
Vous étiez un amateur, alors comment ça se passait la course était annoncée, vous engagiez.
Oui, j'étais engagé ou par le MCF, ou bien alors je m'engageais.
Oui.
On s'engageait à ses frais. Ah ben je pense bien. On s'engageait à ses frais.
Vous y alliez par la route.
On payait son déplacement, oui, naturellement, on y allait par la route.
Et pas de camion atelier, rien.
Ah jamais, jamais. Qui voulez-vous qui patronne des indépendants? Parce qu'on n'avait pas le droit de faire de publicité. La publicité n'existait pas. Le professionnel, lui, même si on le battait, ce qui arrivait, parce qu'il y avait tous les marchands de motos du coin. Vous savez, c'était une époque où il y avait une certaine naïveté parmi tous ces gens-là. Ils ne savaient pas ce que c'était que la vitesse. Alors, ils vendaient des motos, puis ils s'engageaient dans la course de côte locale, et puis il leur tombait des gars qui arrivaient de Paris, il y avait des machines qui faisaient 40 km de mieux que les leurs. Alors, ils étaient complètement perdus. Enfin, bref. Le professionnel, lui, il avait le droit de faire la tournée des marques, de bougies, les chaînes, les huiles et tout ça. Il récoltait des enveloppes partout, mais l'indépendant, lui, n'avait droit absolument à rien. Il y avait des prix qui étaient minables. Je vous l'ai déjà dit, mais par exemple, je ne sais plus à quelle course, on m'a dit, au journal de l'auto, on m'a dit que vous avez gagné un chronomètre. Alors, je me suis de chercher le chronomètre, c'était une montre. Mon genre unitri, vous savez, un truc d'une infâme toquante, enfin bref. Le prix le plus spectaculaire, c'est.
C'est le vélo, là.
C'est le fameux vélo. Hein. Voilà. Hein. Ça, c'est jamais vu. Un vélo, et encore, c'était un vieux rogaton de vélo, c'était un vélo avec des freins anglais, vous voyez.
Pas joli.
Oui, oui, mais enfin, c'est. Vous voyez le genre de prix que pouvaient avoir les gens. Alors, Destival, lui, qui avait monté la côte sur une Sunbeam, là, il m'avait battu d'un cinquième de seconde, il avait remporté une coupe. Moi, j'avais le deuxième meilleur temps et j'avais gagné un vélo. J'étais décidément voué au vélo, vous voyez.
La destinée.
Oui. Oui, alors, après ça, je pense pas que ce soit la peine que je vous explique tout ce que j'ai fait comme...
Non, si vous voulez, bon, vous partez, vous vous engagez, où on vous engage,
oui.
Directement, vous allez là-bas par la route,
oui.
Vous faites vos montées,
oui.
Vous allez chercher votre prix, et vous repartez.
J'en pars.
Dans quel laps de temps, si vous voulez, les essais étaient le samedi, la course le dimanche, ou c'était toute la même journée? Il y a l'hôtel là-bas
Non, c'était jamais la même chose. On ne faisait pas d'essai le matin. Il n'y avait pas d'essai le matin. Les essais, il fallait se débrouiller pour aller les faire le dimanche d'avant.
Ah bon, d'accord.
Ah oui. Moi, chaque fois.
Sur la route ouverte alors.
Oui, sur une route ouverte, bien sûr. Quand j'ai fait Chanteloup, par exemple, eh bien, je suis allé les deux dimanches précédents, je suis allé étudier les virages et tout ça. Sur route ouverte. Alors, vous savez, c'était comme préparation, c'était un peu, un peu juste. Hein. Alors, même Lisieux, quand je suis allé faire Lisieux, ben, je suis allé quand même le dimanche d'avant pour chercher le pignon que je mettrais, le pignon primaire. Je partais, parce que cette machine-là, parce que la seconde motosacoche que j'ai achetée, elle était beaucoup plus élaborée que la précédente. C'était vraiment une machine déjà de compétition, c'était une vraie machine de compétition.
Mais ça,
Oui, la 500, c'était la fameuse D50, là, sur toutes les photos que vous pouvez voir là, il y avait par exemple De Bézieu et Richard, Gossorgue, tous ces gens-là, ils avaient des arbres à cames dans sa coche. Enfin, alors, c'était un très beau moteur, un arbre à cames qui faisait des étincelles, mais le moteur de sa coche, quand ils ont lancé une machine analogue en série, ils l'ont lancé avec en culbuteur. Alors les tiges de culbuteur étaient dans un tube central, on aurait juré que c'était un arbre à cames, mais ce n'était pas un arbre à cames, c'était un culbuteur. Enfin bref, ils ont lancé donc cette machine qui était très très élaborée, parce que pour l'époque elle était sensationnelle. C'était une machine à circulation d'huile, parce que...
C'est ça le magicien d'idée.
Oui, mais ce qu'on appelle la jubilée, c'est la machine destinée à la clientèle touriste ou sport.
Ah oui, d'accord. Oui. Celle qui a le grand carter d'huile, là, en dessous.
Oui, mais c'était une toute autre machine. Parce que la machine, si vous voulez appeler ça jubilée, on appelait ça la machine, la D50 jubilée compétition, si vous voulez. Parce que, après, j'ai vu des gens qui avaient acheté des jubilés de tourisme, enfin de sport, à culbuteur. Ouais. Mais ça n'avait rien de comparable avec la machine que j'avais au point de vue performant. Alors donc, c'était donc un moteur avec un grand carter d'huile en dessous, sur lequel pratiquement au-dessus coulissait la boîte de vitesse.
Ouais, d'accord.
Alors, vous aviez une circulation d'huile. L'huile arrivait par jet dans... Il y avait une pompe naturellement qui envoyait le jet dans le milieu de jet de requin. Et vous aviez les soupapes. Des soupapes assez courtes, qui étaient avec des ressorts en épingle à cheveux, et les soupapes étaient poussées par des petits taquets en acier, qui étaient eux-mêmes attaqués par des culbuteurs. Autrement dit, il n'y avait pas l'effet de torsion du culbuteur quand il appuie sur la queue de soupape.
Ah oui.
C'était très, très élaboré, tout ça dans un carter, circulation d'huile, les culbuteurs étaient graissés, étaient réglés par des excentriques. C'était une belle machine, il y avait une fourche web, avec un seul ressort, des amortisseurs parallèles. C'était une machine très, très moderne d'allure, avec une boîte fermée, et avec un changement de vitesse au pied, il y avait trois vitesses.
Oui.
Après j'avais fait un système, enfin c'est mon fameux mécano là de Saint-Denis qui avait fait le système, avec un pignon de vélo, une chaîne,
oui.
Alors on se prenait sur le marchepied, et comme ça on avait un balancier. Parce que avec le stormet, il fallait faire ça, comme ça, et ça en appuyant, il fallait soulever et appuyer. Mm-hmm. Moi j'avais trouvé plus pratique d'avoir talon, pointe,
vous comprenez ?
Enfin bref, dans des détails. Mais alors, cette machine, on a joué de malchance, et on n'a pas eu l'esprit, on n'a pas eu l'attention à tirer suffisamment sur le fait que il y avait une crépine qui était donc circuit d'huile, et cette crépine qui filtrait naturellement, qui était là pour filtrer les impuretés de l'huile, on n'a pas su, elle s'est bouchée un beau jour, et puis au Grand Prix de France en 2, je ne sais combien, mon moteur il a explosé au premier tour, c'est une catastrophe, j'étais à plus de 150 de dans les tribunes, boum, je sens quelque chose qui tape dans le fond de mon dans le fond de mon réservoir, c'était une cimane qui était montée tout seul.
Ouais.
Oh,
vous avez combien d'années alors?
4 ans, 4-5 ans.
4-5 ans.
Oui, j'ai terminé en faisant des choses pour le motocyclette de France. J'ai fait deux fois Roubaix, Paris-Roubaix.
Mm-hmm.
Alors il fallait aller prendre le départ à Roubaix.
En moto?
Ah oui, bien sûr. On allait prendre le départ à Roubaix, on partait au petit jour, enfin. 5 heures du matin, on venait à Paris, on repartait, on venait pointer à Paris, on repartait à Roubaix, et après on revenait comme on pouvait.
Et autrement, la plus belle course que vous avez faite, Je vais avoir des tas d'anecdotes.
Bah, des anecdotes.
Des
chutes, ça, j'en ai eu quelques-unes, oui. J'en ai eu une. Alors, qui revient, enfin, pour se relier à ce que je disais tout à l'heure, cette fameuse course des 1500 à Saint-Germain-du-Cerf, du Motocyclette Club de Saint-Denis. Mm-hmm. Alors, une fois que j'ai été licencié et que j'étais dans le Motocyclette Club de France, j'avais plus le droit de courir, des choses comme ça, vous comprenez? Mais alors, j'avais tous mes copains qui disaient « Ah, on dimanche, on fait ci, ça. » Alors, je lui dis vite, alors après tout, moi, vous savez, j'aime pas beaucoup les règlements qu'on impose, ceci, cela. Alors, j'ai voulu faire cette course en douce. Et j'ai pas eu de temps, j'ai fait un essai. J'ai tout de suite eu le meilleur temps. J'ai fait un essai, premier essai. Et puis, il y a un gars qui montait derrière moi avec encore une Sunbeam. C'était vraiment mon point noir. Et il a fait un cinquième, je crois, chose comme ça. Seul chronométrage, c'était un peu un cinquième de moins. Alors il m'a dit, il faut absolument refaire un essai, j'avais déjà tout remballé. Alors j'ai recommencé mon essai, puis c'était vers la fin de la course. Je ne me souviens plus très bien ce qui s'est passé. On m'a dit après que c'était des gens qui descendaient déjà le long de la route. Ça, c'était une petite route départementale qui était bloquée là-haut, du côté de Beaumont-sur-Oise.
Ouais.
Et j'étais en fond de train en seconde. Il y avait trois vitesses, j'étais en seconde. Je ne devais pas être pas loin de 120 dans une courbe. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens plus. Est-ce que j'ai été gêné par ces gens-là? Enfin, en tout cas, je crois que c'est mon cadre double verso qui a dû toucher. La fourche a dû s'enfoncer un peu trop. Et puis, bref, j'ai fait un vol plané, la plus de 120. Quelque chose de formidable. Alors on m'a redescendu sur une civière. Enfin, mais ça s'est très bien passé. J'avais juste deux côtes enfoncées et puis une grosse blessure au genou. Enfin bref, c'est peu de choses. Il y a un choc, des moments de m'en remettre quand même. Et là-dessus, j'ai été disqualifié. La fédération m'a retiré ma licence. La fédération m'a disqualifié.
Ouais, je comprends bien.
Et après, pendant au moins près d'un an, mais moi j'étais un peu dégoûté. Pendant près d'un an, alors après je suis rentré en grâce à nouveau et puis j'ai pu recommencer.
Toujours avec la même machine.
Oui, oui.
Donc sur les 4 ou 5 ans que vous avez couru, c'est toujours cette.
Deux machines. La première motosacoche, oui. La première, mais toujours en 5 ans. Oui, je n'ai eu que ces deux machines pour faire des courses.
Et cette machinette, on vous donnait quoi?
Ah bah à chaque fois, je les vendais, oui, parce que malgré tout, c'était une somme relativement importante. À l'époque, quand j'ai acheté ma dernière machine, la machine compétition, le prix catalogue, 13 500 francs de l'époque. Il y avait quand même une progression, parce que ma monnaie Goyon en 28, 27, combien? Oui, en 27. Ma monnaie Goyon, je l'ai payé 5 500. Mon AJS, j'avais dit la payer 5 000, quelque chose comme ça. C'est déjà une espèce d'occasion. La première moto sacoche, dans les 7 000, 7 500. Et alors la compétition, alors là, ça c'est très net, je m'en souviens très bien, 13 500. Alors, je ne sais pas quel genre de calcul on peut faire. C'était en 30, 31.
Voilà le passage. Ouais, ça correspond exactement au prix au franc actuel. Quoi. Puisqu'une moto, on la paye 13 000 francs actuellement, une moto élaborée.
Ben, c'est pas compliqué. Les Grands Prix de France, les premiers Grands Prix de France que j'ai fait, me voilà, j'arrive sur la piste, c'est mouillé.
Du circuit. Hein.
Oui, ça c'est du circuit. Ça m'a jamais réussi d'ailleurs. Voilà, 1930. D'accord. Alors là, au cinquième tour, j'étais dans les premiers, quoi. J'étais le premier des indépendants.
C'est vous là. Hein.
Oui, jusqu'au cinquième tour. Oui. Il y avait de l'eau dans les freins, il pleuvait à verse,
ouais.
Et j'ai pas pu freiner, ou virage du fail, qui continuait tout droit, et je suis passé par-dessus, enfin bref, je me suis retrouvé dans des asphaltes, dans des buissons, dans des arbustes, ça résonne, mais... Alors ça c'est, voyez-vous, là j'arrive, je mets la machine sur les Grands Prix de France, alors,
ouais,
ça doit être en 32, 31 ou 32, je sais.
C'est à Montlhéry toujours. Hein.
Ah oui, ça c'est Montlhéry. C'est l'ancien Montlhéry avec la cabane, là vous voyez, la cabane de chronométrage. Ça n'existe plus tout ça maintenant. Alors voilà, avant que mon moteur explose, là je suis dans le. Je sais plus comment c'est les deux ponts, je crois, virage. Voilà, alors là c'est le premier. Premier, le deuxième, le troisième, j'attaque le troisième là.
Toujours les mêmes pavés qui sont deux ponts d'ailleurs. Et ça, quand le moteur a explosé, c'était quelle année?
Ça devait être en 32. Alors voilà, je suis là au départ de la course de côte de l'Isle.
Vous êtes là le numéro 10, hein?
Non, 31. Non,
31.
Ah, au tour suivant, c'est pas compliqué, hein. Boum! Ça, c'est au départ de la course de côte de Lisieux. Voilà le festival. Ça, ce sont les gens de l'équipe du Motocycle Club de France.
Ouais, d'accord. Quelle année, Lisieux?
Alors, Lisieux, c'est en 31, je pense.
Ah, vous savez, c'est difficile, hein.
Oui, je m'en doute. Oui.
Ça, c'était avant le départ des Grands Prix de France. Je savais pas encore ce qui allait m'arriver.
Elle est très, très belle.
Oui, ils sont belles.
Et ça a été refait, non? C'est...
Ah oui, on n'en a pas encore parlé. Alors là c'est avant d'arriver, on groupe les machines, c'était à cause de l'île. Oui. Vous voyez le genre des gosses qui couraient, là, vous voyez? Ça, c'est un motoriste du coin. C'est un motoriste du coin qui est venu se promener là avec une espèce de mania de bombe. Enfin, il faisait 30 km de moins, vous comprenez?
Ouais, oui, on voit les petits garde-boue que vous avez, etc.
Ah oui, c'est
vraiment la machine.
Ah oui, c'était la machine de course. Là, j'ai fait 137 de moyenne, les vieux.
Oui, allez, parlez-nous de Monneray.
Alors, Monneray, ah oh là là.
J'ai entendu de
oui, faire téléphoner. Non, alors.
Est-ce que je peux vous demander une cigarette?
Oh, ouais, mais
j'ai oublié mon paquet de la voiture, vous m'excusez. Hein.
Alors, j'ai fait Gomez de Châtel. Là.
Non, merci. Vraiment ?
Je vous remercie beaucoup.
Merci, madame. Vous pouvez
les laisser. Alors, la première fois que j'ai fait Gomez de Châtel, c'était avec la moto sacoche double échappement. Ouais. C'était pas avec la compétition. Alors, j'avais monté la côte à 105 de moyenne. Il n'y avait pas de lancer, là. Hein. C'était un départ arrêté. On partait 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, et puis, c'était chronométré tout de suite. Et avec une machine de série que gonflé par le copain en question, avec une côte à 10%, 105, c'est pas mal.
Ouais.
Alors, ça représentait presque toujours, tous ces temps-là, c'était presque toujours, sauf à Doulan, sauf à Lisieux, ça représentait toujours le meilleur temps des amateurs, enfin des indépendants, quoi. Mais alors, l'année suivante, enfin, non, 2 ans après, je crois, je ne me souviens plus, j'ai refait Gomez de Châtel. Mais alors, avec la machine compétition, allégée, enfin bref, je croyais que j'allais faire l'étincelle, mais ce jour-là, il pleuvait. Il pleuvait si bien que moi, je n'ai pu faire qu'un seul essai. Jusqu'à 11h30, personne n'a pu monter. Alors, j'étais un des premiers à faire le premier essai, et j'ai eu le meilleur temps de la journée jusqu'à midi, au moment où ça a commencé un peu à sécher. Alors, en attendant que la pluie s'arrête, on était réunis dans un espèce de bistrot. Là, il y a au moins 200 personnes là-dedans, et il y avait Monneray, que je connaissais bien. Alors, il me dit, devant tout le monde, il me dit, « Mon pauvre Delmotte, quand je pense que ce soir, on va casser la croûte avec ta cervelle. » Je l'ai marqué, tout ça. Alors, Monneray était très gentil. Par ailleurs, il m'a rendu pas mal de service. Il me passait ses pneus dont il ne se servait plus. C'est des pneus racines, il fallait des pneus racines.
Ah, ouais.
Alors, comme ça, il m'a emmené une fois ou deux dans sa camionnette, à Château-Thierry notamment, la seconde fois que j'ai fait Château-Thierry.
Lui, il était avec sa Sunbeam.
Ah non. Non, la première fois qu'il a fait Château-Thierry, quand j'étais là, il montait sur la mille qu'il a rescopiée.
Ah, ouais.
Enfin, il montait dans toutes les catégories.
Oui, d'accord.
Il montait en 675, en 250, en 350, en 500.
Il avait toutes les machines.
Oui. Ah oui, il amenait que sa camionnette, et puis, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était de rafler les premiers prix. Or, il était professionnel, il avait les machines qui allaient plus vite que tout le monde, et puis lui-même était un pilote extraordinaire. Je vois encore à Château-Thierry, la route était mouillée. Je vois arriver dans l'eau de la côte, il balayait toute la route, hein. Il était peut-être à près de 200 avec sa machine, hein. Il balayait toute la route, il était gonflé à bloc, c'est incroyable, une espèce d'inconscience. joyeuse, une inconscience joyeuse, un type très marrant. Moi, je l'aimais beaucoup.
Ouais. Francis Kay, vous avez couru avec...
Oui, enfin, il s'est trouvé là. Francis Kay s'est trouvé là aussi. C'était, il était aussi à... ah non, Francis Kay, c'était à Gomez de Châtel. Oui, ben, je suis en train de mélanger. J'ai dit Château-Thierry ?
Oui.
Non, c'était à Gomez de Châtel que...
Monorec, là ?
Que Monorec, ça s'est passé, ça. C'est ça. C'était à Gomez de Châtel, toute cette histoire-là. Oui.
Parce que j'ai rencontré Francis Kay au salon de la voiture de course.
Là. Oui.
Et il ne porte pas Monorec dans son cœur. Hein.
Ah bon ?
Ah non.
Oh, ça ne m'étonne pas. Enfin, Francis Kay, je n'ai fait que l'entrevoir une fois ou deux dans les cours. C'était un homme très digne, très calme. Et c'était l'antithèse complète de Monorec, qui était un foireur. Mais il était, c'était marrant, Monorec. Hein, c'était marrant. Moi, j'aime bien, c'était pas marrant.
Vous l'avez reçu, non ?
J'ai revu par hasard, j'ai revu une fois ou deux depuis. On devait aller dîner ensemble et puis je l'ai reperdu depuis. Je l'ai revu souvent quand il avait ses magasins, parce que je partais dans le coin. Il avait un magasin près de la Bastille pendant un moment. Oh, avant la guerre, il avait un magasin à la Porte d'Orléans, la sortie de la Porte d'Orléans. Ça, j'y allais pratiquement presque tous les midis en me promenant. Je sortais du restaurant, puis j'allais désirer en faisant. Une petite heure de marche, aller-retour, on devait discuter avec Monorec. J'étais très copain avec lui. Comme je le mets sur votre petit papier, je ne l'ai battu qu'une fois. C'était au ping-pong.
Très bon.
Oh, ben, je suis persuadé que je le retrouverai, ce serait pareil.
Ben, ce qu'on veut faire, nous, c'est... J'ai envie d'organiser un banquet, un peu, là, avec tous les anciens pilotes.
Ouais. Mais moi, je tiens à vous préciser encore, hein, que je me considère comme rien du tout dans ces histoires. Hein.
Non, mais
je suis j'étais un amoureux fou de la moto.
Ouais.
Je me suis risqué dans des confrontations comme ça, sans espérer un résultat. Ouais. Vous comprenez ?
Pour le plaisir.
Oui, c'est ça. Je me réalisais là-dedans, vous comprenez ?
Ah oui, d'accord.
Avec énormément de déceptions, énormément de casses de machines. J'ai pas eu de chance. En réalité, j'ai pas eu beaucoup de chance.
Vous avez couru ? Ah ben, Sourdeau, il courait dans les petites
catégories. Ah ben, je l'ai noté, Sourdeau, là. Je me suis souvenu de lui. Il courait en 75 Manégoyon. Tenez. Voilà toute la liste des gens dont je me souviens.
Edoura, d'abord.
Je l'ai vu en course une fois, je ne sais plus quand, et il s'est trouvé qu'il rentrait sur Paris, il avait une Bugatti à cette époque, et on s'est entassé, on était au moins 4 ou 5 dans une petite conduite d'intérieur Bugatti, sous la pluie.
Ouais. Qu'est-ce que vous aviez comme voiture?
Ah non, moi j'avais pas de voiture.
Vous aviez qu'une moto?
Ah oui, je n'avais que de la moto, il n'était pas question pour moi d'avoir une voiture. Déjà la moto coûtait assez cher, la moto en course coûtait assez cher, puis enfin il n'y avait pas de voiture amusante à l'époque. Voilà, moi j'avais un profond mépris pour les voitures.
Ah bon ? Même les Poirot, les Morgan ?
Ah bah le Morgan, le Darmon spécial n'existait pas encore. Il n'existait, ah non, à mes débuts de moto, il y avait le Morgan, mais c'était un soupape latéral, un deux cylindres, autant je me souviens, c'était un deux cylindres soupape latéral. Après, il est venu le Darmon spécial à culbuteur, celui-là qui allait vite. Il y avait un gros couple, c'était un gros moulin, je me souviens. Et puis alors, bon, j'ai des amis qui ont acheté un Sandford comme ça, ça cassait rien, c'était un moteur Ruby, ça cassait rien. Mais c'est l'époque où j'ai commencé à acheter un regard vers les voitures. Alors c'est Monorec qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fiches en moto, tu te rends pas compte, il dit moi je gagne ma vie avec, qu'est-ce que tu veux, j'ai ma vache à lait, il parlait de sa mille. J'ai ma vache à lait, toi, c'est vrai parce que j'avais un métier qui n'avait rien à voir avec la mécanique, j'ai toujours été dessinateur de mode et de figurines, j'étais pas très bien dans mon assiette avec... Étant donné que je connais quand même pas mal de choses en mécanique, et enfin, sur un plan camarade, ça allait très bien quand même. Enfin, il me dit, qu'est-ce que tu fous en moto, là, tu te vois, quand tu auras 27, 28 ans, il est en moto. C'est vrai, la moto était extrêmement mal vue à cette époque, pas considérée du tout. Hein. Un motocycliste était un type avant tout, qui n'avait jamais pu s'acheter une voiture, vous comprenez ?
Ah oui, d'accord.
Ça a toujours été considéré comme un type qui pouvait s'acheter une voiture. Alors, évidemment, les machines, la mécanique, évidemment, n'était pas au point comme maintenant. Alors, on envisageait pas de partir pour faire un peu de route sans avoir la clé anglaise dans la botte. Il fallait avoir... mais ça, c'était pas pour frimer, c'était parce que vraiment, hein, au bout de 10 km, il y avait quelque chose à retirer. Hein. Ça, c'était vraiment comme ça. Enfin, c'était, à mon avis, la plus belle époque. Entre les années 26, 27, 28, c'était le règne du gros monocylindre. Hein. C'était magnifique. Les machines avaient une gueule à cette époque qu'elles n'ont plus maintenant. C'est autre chose. Maintenant, ce sont des véhicules presque. Ce sont des véhicules, ce ne sont plus des motos. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui,
elles ont des démarreurs électriques, enfin. Avant, quand vous aviez... un gros mono qui comprimait bien, là, et puis vous dites, on a une fille du cœur, c'était professionnel. C'est les Anglais sont sensibles à ce genre de choses, là, les vintage, vous savez, les anciennes voitures.
C'est pour ça que Norton, Villiers, Séance, Matchet et RGS ont fait faillite.
Ben voilà. Et voilà, ils n'ont pas évolué parce qu'ils étaient enfermés dans une espèce d'admiration. Éternel, ils avaient le culte de ces anciennes choses-là, et puis ils n'ont pas senti qu'il y avait une évolution. Enfin, oui, je me souviens très bien, dans les années 26-27, on se promenait avec des gros monos échappement libre. Et ça partait. Mais évidemment, on n'avait pas le droit. Enfin, il y avait peu de machines, il n'y avait presque pas de circulation. Alors on était
les gendarmes étaient à vélo.
Les gendarmes étaient à vélo, vous vous en souvenez. Ah non, c'était la belle époque. Je revois encore les Norton avec leur petit de culbuteur là, et puis les réservoirs plats. Ils avaient une formule dans leur catalogue, c'était The Inapprochable Norton. The Inapprochable Norton. C'était chouette.
C'est joli, c'est Norton avec les réservoirs plats et qui fait tonner en bas.
Fait tonner, oui. Bah tenez, ma moto sacoche, elle avait...
un réservoir fait tonner dans le bas. Mais la voilà en gros.
La voilà en détail. Voilà le dessin quand. Alors vous voyez, il ressort en pincette. Et puis alors le carter qui contient les poussoirs de soupape. Oui. Alors, les deux culbuteurs étaient réunis dans un tube, là vous voyez, on voit.
Il y a un carburateur à deux cuves.
Ah oui, il y a un carburateur à deux cuves.
Ça, c'est la photo de votre moto.
Non, ça, c'est la photo de la machine du salon.
Du salon, d'accord.
Oui, mais enfin, la mienne, c'était la même chose. Oh, ça avait une galerie, ces machines-là, à l'époque. Moi, si je devais refaire de la moto, ce que j'aimerais, c'est la Vélocette, la Thurston. Elle a encore une gueule professionnelle. Alors, récemment, comme je suis allé voir la rétrospective des machines à Tatastine, les grands magasins ont donné aussi, ont fait l'exposition publicitaire et pour la mode d'homme, ils avaient entremêlé des modèles anciens, d'ailleurs c'était les mêmes. J'ai reconnu.
Oui, c'était la collection Motorvue.
La collection Motorvue.
Elle était louée là-bas.
Alors il y a notamment une Sarolea, la dernière Sarolea de compétition, qui est une très très belle machine. Et je crois que Monneret a fait une de ses dernières courses. Je crois qu'il l'a fait là-dessus.
Ah bon ?
Il a dû faire un circuit du côté de, je ne sais pas si c'est Dieppe ou, enfin bref, par là, et elle n'était pas rodée, il est allé...
Ça continue à marcher ?
Oui, oui. Il est allé par la route, elle était à peine rodée, et je crois qu'il y avait un article sur lui dans Motorvue à cette occasion. Vous savez que j'avais un très bon copain qui a été pendant... il était inamovible à Motorvue. C'était Gédovius, dessinateur, qui...
Oh, le type qui fait toutes les illustrations.
Gédo.
Oui, d'accord.
Oui.
Tous les petits bonshommes.
Ah, non, il faisait des machines. Mais c'était...
Il faisait des machines.
Ah, uniquement les machines.
Parce qu'il y a un dessinateur qui est vraiment... On voit Motorvue en France à ça. C'est tous les petits bonshommes, vous voyez, avec leur pilote de moto, etc.
Non, on ne lui faisait pas de personnage.
Non, pas
jamais de personnage. Non, mais c'est un type de grande classe au point de vue dessin technique.
Ah bon ?
Ah oui.
Et vous l'êtes aussi ?
Oh bah, c'est un copain d'école, je l'ai un peu perdu de vue.
Ah,
hein.
Ouais.
Je l'ai complètement perdu de vue maintenant. Mon enfant, on était très, très copains intimes, on était intimes pendant très longtemps. Je suis parti en vacances plusieurs fois avec lui. Enfin, bref. Il était retourbu au cours de... Bah, pas compliqué, hein.
La moto s'est terminée comment, alors?
Bah, la moto s'est terminée quand j'ai acheté un petit roadster Fiat, enfin, qui avait fait des rallyes, un petit roadster Fiat qui avait fait Paris les Pyrénées, des choses comme ça. Ah oui, il était gonflé. Oui, il cavalait, c'était sensationnel. J'ai même fait une pige un jour avec le représentant des Singers, Savoy, il s'appelait. J'ai dit, écoutez, on fait un essai, parce qu'il était un peu dépassé, mon roadster, je voulais autre chose de mieux. On a fait une pige dans une rue là-bas, de Valois, je ne sais plus où il était, c'était sur plein. Et au démarrage, il était absolument sur plein.